C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
La vie est bègue, c'est Valentin Reiner qui l'affirme. Ce bègue, depuis l'âge de 4 ans, est aujourd'hui humoriste, comédien, humoriste de stand-up. Il a même participé à La France a un incroyable talent et il sort aujourd'hui un livre, La vie est bègue, aux éditions DH Management, dans lequel il raconte son histoire, semée d'embûches, de moqueries, de courage et d'acceptation de soi.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Valentin, bonjour.
Bonjour.
Alors Valentin, vous êtes bègue, mais ça ne vous empêche pas d'être comédien et humoriste.
Bien sûr, ce n'est pas incompatible.
Oui, c'est pas incompatible, mais ça a été quand même compliqué, parce que tout le monde ne le pense pas.
Il faut juste changer les cases et changer la vision des autres aussi. Et ça, c'est sûr que parfois, c'est compliqué. Mais quand on croit vraiment à ce qu'on fait et puis qu'on croit généralement en ses rêves, tout passe.
Et alors justement, quand vous passez un casting pour être comédien, je ne sais pas, dans une pièce ou dans un film, vous êtes accepté comme un autre ?
Mais oui, car le principe d'un comédien ou bien d'un acteur, c'est d'être soi-même. Si on n'est pas soi-même face à une caméra, on le sent et le public le ressent. Il n'y a pas de sincérité. Alors que notre métier, c'est de jouer, mais de jouer en toute sincérité.
Oui, oui, oui. Et alors, lorsqu'on recherche un rôle, un type particulier, on vous propose certains rôles, on vous dit, on cherche un homme jeune, brun, je ne sais pas, et vous postulez, et puis après, peut-être, on se dit, oui, mais on n'a pas prévu quelqu'un qui serait bègue, ça vous arrive, ça ?
Pour l'instant, non, mais j'en suis persuadé que dans quelques temps, ça va m'arriver. Mais toute la difficulté, ça va être de pouvoir jouer des héros normaux avec cet accent qui est le bégaiement. Et puis, pas jouer indéfiniment le bègue, en fait. Mais j'ai l'impression que, par exemple, le monde de la télé est vraiment ouvert à ça. Prenons un exemple. En ce moment, on a le capitaine Marlowe, qui a quand même un gros accent, un accent ch'ti, qui ne parle pas comme les normes de la télévision. Et puis, les gens adorent, en fait.
Oui, ils adorent justement pour ça.
Ils aiment la particularité. Moi, j'ai l'impression qu'en 10 ans, manière télévisuelle, on a énormément changé. Les gens veulent des personnages attachants. Des personnages hors normes.
Ça fait 10 ans que vous êtes dans ce milieu, justement ?
Ah non, moi, ça fait 2 ans.
D'accord.
Non, 2018, donc 4 ans, oui.
Oui, sachant qu'il y a eu le Covid entre...
Oui, donc en voilà. Gros, un an et demi.
Oui. Et alors, comment vous présentez en tant que bègue, comme comédien bègue, est-ce que vous le dites, est-ce qu'on postule en le disant ou on ne le dit pas du tout et puis les gens découvrent, comment ça se passe ?
Eh bien, en fait, comédien bègue, oui, je l'assume, donc je me revendique comme comédien bègue, mais d'autres acteurs se présentent comme médias aussi avec un accent.
Oui, oui.
Qu'est-ce que ça fait, Valentin Reiner, lorsque le directeur de casting d'Incroyable Talent vous rappelle pour vous dire qu'ils veulent vous voir très rapidement pour faire un essai ?
Au départ, moi, je ne voulais pas forcément faire cette émission-là. C'est un ami qui m'a présenté donc au casteur de cette émission. Donc c'était vraiment un pur hasard. Mais après, comme on a discuté et j'ai vu que la démarche, pour une fois, était sincère, et je me suis dit, en France, on a mis trop de stéréotypes sur les bègues, et bah allons vraiment attaquer ces stéréotypes et prouver que les bègues sont normales, en fait.
Mais en fait, il y a la chance pour tout le monde, finalement, dans cette émission-là. Les gens ont leur chance, enfin, tout le monde a sa chance, finalement.
Oui, cette émission, c'est un peu... c'est vraiment une émission de musical, en fait. Il y a de tout. Et je trouve que cette émission est très, très enrichissante, en fait. Car on va voir plusieurs univers. Il y a de la musique, il y a de la danse, mais toujours avec une petite particularité, et c'est une émission qui fait du bien, je trouve.
Et alors, justement, on parlait de votre statut de comédien, mais vous avez aussi, vous êtes lancé dans le comique, vous êtes humoriste, et alors c'est pour ça que vous avez fait cette émission, c'est pas en tant que comédien.
Ah non, c'est vraiment en tant qu'humoriste. Moi, à base, je n'ai pas de formation de comédien. J'ai fait du théâtre amateur pendant 8 ans, c'était un plaisir, et puis c'est vrai que l'un des tout premiers déclencheurs, c'est quand, lors d'une représentation, un spectateur est venu me voir et m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites bien le bec, quoi, ça serait incroyable !» Et là, j'ai dit « Ah, si lui, il croit que le bégaiement serait un rôle, alors que ça n'en est pas, ça veut dire que ça peut être accepté par les gens. »
Oui, oui.
Et puis, il n'y avait aucun rire moqueur, en fait. Et c'est là que je me suis dit, ah, peut-être que c'est le moment pour y aller.
Et alors, racontez-nous, vous êtes accepté dans la France à un incroyable talent. Qu'est-ce que vous présentez et comment ça se passe ?
Et donc je passe devant la directrice de casting dans une scène ouverte. Donc je leur fais mon numéro de 5 minutes et là tout de suite ils disent bon, on vous veut, et deux semaines plus tard ils me disent voilà, en août vous serez dans l'émission. Et donc en arrivant sur ce plateau d'incroyable talent, il y a cette chose assez étonnante, c'est que je n'arrive plus du tout à parler. Donc,
c'est le stress,
oui. Et donc, toute la production est vraiment affolée. Ils se disent, oh là là, comment qu'on va réussir à le décoincer, entre guillemets. Et là, ils ont l'idée de faire un petit happening avec David Ginola. Cette séquence n'a jamais été diffusée à la télé, et donc il me booste comme un entraîneur de foot, et puis il me dit tu vas réussir, et tout ça nous donne confiance. Et donc en arrivant sur la scène d'Incroyable Talent, quelques minutes avant, il y avait un numéro avec un musicien qui jouait de la flûte pour les oiseaux. Et puis moi, ma plus grande peur, c'est les oiseaux.
Ah bon ?
Donc, j'ai eu...
Vous êtes phobique des oiseaux ?
Mais j'ai une énorme phobie. Donc là, ils m'ont tous regardé, toute la production m'a regardé en état de décomposition. J'avais peur, et puis là, l'assistant plateau me dit « Tu veux qu'on recule ?» Et j'ai dit « Non, on recule pas, on fonce. » Et là, j'arrive devant le jury, et puis Eric Antoine m'a offert l'opportunité de répondre avec beaucoup d'autodérision, donc ça m'a énormément aidé.
Oui, oui. Et donc, vous avez fait ce premier passage devant le jury d'un incroyable talent. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ?
Eh bien, par la suite, durant cette émission-là, Eric Antoine actionne le Golden Buzzer et vient quelques mois plus tard, un gros déferlement médiatique. La vidéo fait presque 25 millions de vues.
Oui, c'est énorme.
J'ai un changement incroyable. Passer de l'ombre à la lumière comme ça.
Ça veut dire qu'on vous reconnaissait dans la rue ? On vous reconnaissait ?
Oui, complètement.
On vous disait quoi ?
Bravo d'avoir fait ça. On voit les bègues autrement, on voit le handicap de manière différente. Et ça, pour ces mots-là, je suis complètement fier d'avoir fait cette émission-là pour ça. Car si ça a pu vraiment changer l'œil de téléspectateurs sur le handicap en général, et ben c'est très bien.
Oui.
Et c'est très bien.
Et à Valentin, vous avez changé justement, je pense, la façon de voir les personnes bègues qui ont pu voir vos prestations à la télé, en vidéo, sur Internet. Je pense que vous avez changé quand même tout cela. Et c'est une très bonne chose et vous allez continuer de le faire. On va découvrir la suite de votre parcours dans un instant dans Vivre, c'est épatant.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant avec Carole Clémence.
Notre invité Valentin Renner.
Ah bah là, vous avez devant vous le pro de la communication orale, donc il faut communiquer.
Oui. Ma vie de bègue, c'est votre livre chez DH Management. Vous racontez votre histoire depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui. Alors, on reviendra tout à l'heure sur votre parcours, mais on va rester sur ce qui est tout récent. Donc, cette émission, La France a un incroyable talent. Vous avez fait la première émission, il y a eu le buzzer d'or, ce qui vous amenait à la finale directement. Et cette deuxième émission, donc la dernière, la finale, comment ça s'est passé, Valentin ?
Bah, très très bien. C'était encore une fois une super expérience, car on est en direct sur M6, et puis prendre un beg en direct sur M6, faut quand même prendre des risques, car le sketch peut durer très très longtemps.
Oui.
Mais M6 n'a mis aucune censure sur l'écriture. Ils ont été ultra bienveillants. Toutes les propositions, ils l'ont accepté.
Très bien.
Et puis, comme on dit qu'en ce moment, certaines chaînes censurent et tout ou ça, et ben, ce n'est pas du tout le cas de M6 et de cette émission-là qui m'ont offert vraiment une opportunité de dire ce que je voulais.
Oui, alors dans vos sketchs, vous pratiquez l'autodérision, c'est ça ? Vous vous moquez du fait d'être bègue. Est-ce que les autres bègues apprécient ?
Alors, je ne me moque pas. J'essaye de raconter mes moments de vie et puis de les tourner en dérision.
D'accord.
Mais toujours, ma limite, c'est la moquerie. Quand je sens que ça peut toucher les autres bègues, je n'y vais jamais.
D'accord.
Car c'est tellement personnel et j'ai déjà tellement de bègues qui souffrent
du
fait d'être bègue. Donc moi, je veux juste provoquer de l'espoir.
Oui,
voilà.
Oui, en vrai, vous n'aimez pas vous moquer des personnes qui sont comme vous. Enfin, ça vous blesse par rapport à ce que vous, comment, enfin, par rapport au bégaiement que vous avez, en fait.
C'est tout simplement, c'est pas parce que moi, je vis très bien le fait d'être bec que les autres becs.
Oui, mais peut-être
vivent.
Voilà. Effectivement, ça peut...
Il faut trouver la juste limite. C'est pour ça que je mets pratiquement toutes les vannes à la première personne. C'est tout le temps jeu.
Oui, vous avez beaucoup d'autodérision, bien sûr.
Mais
je trouve que vous avez raison, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut rire de... Enfin, vous arrivez à rire de tout quand même, par rapport à d'autres personnes. Enfin, c'est comme difficile aujourd'hui de sans forcément blesser les gens.
Je pense qu'on peut rire de tout, mais comme le disait Pierre des proches disaient, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc oui. C'est pour ça qu'il faut trouver cette limite.
Et alors aujourd'hui, on peut vous voir sur scène et où?
Oui, donc je reprends mon spectacle La vie est bègue à partir du 15 avril au Théâtre des Mathurins.
D'accord, c'est une première ou vous avez déjà commencé ce spectacle sur scène?
C'est une reprise.
D'accord, c'est une reprise. Oui. Donc ça se passe très bien pour vous. Vous imaginez continuer cette vie de comédien et d'humoriste?
Plutôt, je me dirige plutôt vers la télévision et puis le cinéma.
Oui.
J'espère qu'on va me proposer des chroniques ou bien des rôles dans des films ou séries.
Oui,
bien sûr, oui. J'ai plus cette envie d'être à la télé ou bien sur un grand écran que sur scène pour l'instant.
Oui, d'accord. Et vous avez quel âge?
J'ai 28 ans.
D'accord. Puis vous êtes plutôt beau garçon, vous êtes jeune, merci. Ça passe bien, ça peut le faire?
On verra bien.
Oui, on vous le souhaite, Valentin. Alors, dans votre livre, La vie bègue, aux éditions DH Management, oui. Valentin Reiner, vous racontez votre histoire. Alors, au début, vous êtes dans une famille aimante, mais quand vous avez 4 ans, vous commencez à bégayer. Alors, vous expliquez pourquoi dans le livre, on ne va pas insister, mais vos parents, enfin, votre mère s'en occupe, elle va voir différents spécialistes, ouais. Beaucoup de spécialistes. J'avais noté, ça va de l'orthophoniste, ce qui est normal, le kiné, la sophro, il y a des massages, il y a du magnétiseur.
Frôler les exorcistes.
Ah oui.
Aussi. Non, mais non, je rigole.
Ça aurait été... Non. Et puis le radiesthésiste, oui, exactement. Enfin, beaucoup de spécialistes. Et qu'est-ce qui vous a aidé?
Ce qui m'a aidé, je pense que ce qui m'a aidé avant tout, c'est le soutien de ma mère.
Oui.
Et puis aussi, innocentement, c'est que j'ai tout le temps cru en moi, en fait. Même si certains m'ont pas à mal rabaissé, moi, j'y ai tout le temps cru.
Oui.
Mais ma mère m'a toujours aidé. Elle m'a toujours dit, si on se moque de toi, surtout, remets une couche. Remoque-toi de toi, comme ça, les autres n'auront plus à le faire.
Oui.
Et je pense que c'est le meilleur remède. Car en fait, moins qu'on montre qu'on a un handicap, plus le regard des autres devient normal.
Oui.
Plus ils se disent, en fait, il est comme les autres. Si on pointe un élève du doigt en disant « Attention, il est différent », le cerveau des enfants dit « Oh, il est différent, donc je vais me comporter de manière différente. » Et là viennent les moqueries. Donc il faudrait un peu plus de prévention pour aussi alerter les professeurs, alerter tout l'enseignement, de dire c'est pas parce qu'on a un élève différent qu'on doit agir de manière différente.
Oui, mais pourtant, lorsqu'un enfant a un handicap, quel qu'il soit, souvent on va dire aux enfants, mais votre camarade, il est différent, il faut accepter la différence, c'est ce qu'on dit en fait.
Mais malheureusement, ce discours-là empire les choses.
Oui.
Parce que plus qu'on va le pointer différemment, plus le traitement va être compliqué. Bien sûr que s'il y a une moquerie, il faut reprendre l'élève. Mais si la moquerie n'a pas lieu, eh ben, laissons faire les choses. Et puis l'enfant va comprendre lui-même.
Oui, et alors vous faites tout votre parcours scolaire dans ce livre, il y a vraiment de grosses différences entre les enseignants, il y a des enseignants qui vous ont aidé, tout se passait très bien, vous aviez une année heureuse, et puis parfois ça se passait très mal.
Ça a été aléatoire, et puis il y a encore 20 ans de ça, on prenait moins en compte les difficultés, car en plus d'être bègue, en fait je suis au potentiel, je suis dyslexique, dyspraxique, et tout ça, ça fait beaucoup aussi pour une seule personne. Donc, on décroche à l'école, donc on est considéré comme le cancre, car on n'écoute plus, car on est trop en avance et puis on s'ennuie, donc on bavarde avec les autres. Et puis on en vient à vraiment s'en désintéresser. Maintenant, j'ai l'impression que l'institution, l'éducation nationale, a repris un ça en compte, et maintenant on parle plus des difficultés scolaires qu'avant. Et ça, c'est quand même bien.
Oui, on avance.
On avance sur ça.
Oui, oui, oui. On a encore aujourd'hui des instituteurs, des enseignants qui vont empêcher un élève gaucher d'écrire avec sa main gauche.
Ah, ça,
c'était dans les années 90, c'est incroyable.
Moi, c'est mon encart. Je suis gaucher et puis on m'a forcé de me servir de la main droite.
C'est une grande violence.
C'est presque inhumain en fait.
Et je pense qu'on pourrait porter plainte si un enseignant le faisait aujourd'hui. Clairement.
Je pense qu'on n'est pas du tout dans l'acceptation. On est dans une banalisation de la société où il faut être tous comme les autres. Sauf que la vie, c'est pas ça.
Oui, oui. Et alors, vos différents 10, dyspraxie, dyslexie, évidemment, ça vous compliquait la vie. Vous aviez pas une belle écriture, c'était compliqué d'écrire. Ça vous a vraiment desservi. Mais vous avez quand même passé des CAP.
J'ai passé un BEP puis un bac pro.
Oui. Oui.
C'est le niveau au-dessus, mais oui, c'est que des diplômes, en fait.
Ouais.
J'avais fait un BEP, puis un bac pro comptabilité, en fait.
Oui.
Sauf que je n'aimais pas les chiffres.
Vous n'êtes pas le seul. Valentin Ménard, vous restez avec nous. Vous êtes l'auteur de Ma vie bègue aux éditions DH Management. Et vous racontez votre parcours de bègue depuis tout petit à l'école jusqu'à aujourd'hui où vous montez sur scène. Vous êtes humoriste.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
Toujours avec notre invité Valentin Reiner qui nous parle de sa vie, donc sa vie de bègue, et il nous sort ce livre « La vie est bègue » aux éditions DH Management. Il est humoriste aujourd'hui, il a 28 ans, il est humoriste, comédien, il cherche des rôles en télé et puis au cinéma. Alors cette vie, aujourd'hui vous la vivez bien, vous vivez bien le bégaiement, ça n'a pas toujours été facile. Vous avez, au cours de votre enfance, on a vraiment nié votre potentiel. Votre père, par exemple, il a dit des choses terribles, hein, vous le dites dans votre livre, à votre propos, et ne croyait pas du tout en vous, il vous trouvait nul.
Je pense que les propos de mon père viennent dans une circonstance assez terrible, car on est deux mois après le décès de ma mère, en fait. Et je pense que mon père ne savait pas quoi faire. Lui-même était sûrement dans un état assez lamentable et triste. Et c'est vrai qu'il y a dû avoir une inquiétude pour moi. Car il s'est dit, il est en train de se rêver un avenir de comédien alors qu'il n'arrive même pas à dire une phrase correctement. Et donc, aujourd'hui, je peux le comprendre. Aujourd'hui, vraiment, je comprends ses peurs. Même si je ne les accepte pas. Car ce n'est pas ma philosophie de vie.
Oui.
Mais je peux comprendre qu'à ce moment-là viennent ces propos-là. Et c'est vrai qu'elles sont très très dures. Ces mots sont durs et puis après, il faut se reconstruire après ces mots-là. Et oui. Là, ça prend plusieurs années.
Oui, et il n'est pas le seul à ne pas avoir cru en vous. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en vous.
Alors moi, j'aime mieux me rappeler ceux qui ont cru en moi, ceux qui n'y ont pas cru.
Mais après, c'est une force aussi, excusez-moi, c'est une force aussi des gens qui n'ont pas cru en vous à l'époque, aussi bien votre papa que aussi une enseignante. Ça vous donne une forte façon à prouver que bah, justement, vous pouvez y arriver et que vous y êtes arrivé.
Mais bien sûr, c'est dans la détermination qu'on y arrive. Et tous ceux qui ont dit « bon bah tu n'y arriveras pas, par exemple, ma prof de secrétariat au lycée qui à chaque fois que je parlais me disait « respire quoi, respire ». Mais et plus qu'elle me disait « respire », plus que ça me bloquait. Et donc, un jour, je lui dis « bah j'aimerais bien présenter la cérémonie des remises de diplômes du lycée ». Et là, elle a cette phrase qui dit « mais non, c'est pas possible, tu vas faire honte à tout le lycée ». Bon, c'est vrai que tu d'entendre le mot « honte », ça ne fait jamais plaisir. Mais on s'est dit « attends, dans quelques années, j'y arriverai ». C'est sûr que je vais me battre pour avoir ma place sur scène comme n'importe qui.
Oui, vous pensiez que vous alliez vraiment y arriver ou que ce serait un rêve possible ou pas?
Même si il y a des moments où qu'on n'y croit plus et puis qu'on est obligé de faire une autre activité, et c'était toujours dans le coin de ma tête.
Oui.
J'avais toujours cette lueur d'espoir et cet amour du cinéma et de la télévision aussi, qui me disait « tu vas voir, tu vas y arriver un jour ».
Oui. Quel conseil vous donneriez à d'autres personnes qui sont bègues comme vous pour évoluer? Parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas parler et des personnes qui se disent je voudrais faire telle carrière mais j'y arriverai peut-être pas. Est-ce que voilà, il y a vraiment beaucoup d'interrogations.
Oui, le conseil c'est de ne pas écouter les autres mais de s'écouter soi. Et de croire en ses rêves, tout simplement.
Oui, mais on peut se casser la gueule, ça peut être dur, la chute.
Oui, mais dans la vie, il faut des chutes pour pouvoir rebondir. Si la vie, c'est un long fleuve tranquille, elle ne sert pas à grand-chose.
Oui, et la vôtre, ça n'a pas été un long fleuve tranquille.
Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais j'en suis très fier.
Oui, vous en êtes fier.
Et puis, heureusement que ça n'est pas... Que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, car on s'ennuie.
Oui.
On s'ennuierait. Si tous on était nés avec une petite cuillère en argent, ça serait pas très drôle, en fait. Voilà, il faut toujours gravir des étapes pour arriver à son but.
Oui, donc il faut de l'adversité, il faut des obstacles pour vivre heureux.
Mais bien sûr, car à chaque fois qu'il y a une épreuve, il faut se relever et puis on se relève encore plus fort. Et puis après, on franchit l'autre étape. Mais si tout est simple, eh ben, j'ai vraiment pas d'enjeu, en fait.
Oui. Oui, et vous le montrez, justement, on conseille de lire ce livre. Alors, il reste quelques minutes encore. Il reste 6 minutes. Donnez-nous des conseils pour ces personnes bègues. D'autres conseils, à part croire en soi. quel est l'orthophoniste, hein? Je pense qu'il faut vraiment le conseiller. Oui. Mais c'est évident.
L'orthophoniste m'a énormément aidé, car mon orthophoniste, avec qui je garde encore d'excellents contacts, m'a dit éliminer son bégaiement, c'est presque impossible. Il faut le vivre avec.
D'accord.
Et je pense que cette phrase, vivre avec son bégaiement et totalement l'accepter, c'est le plus important.
Oui.
Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de prévention, plus en plus de sensibilisation. Faudrait aussi, car le plus cruel, c'est qu'on annonce aux parents, écoutez, votre fils est bègue et il n'y a aucune aide. Alors que dans d'autres handicaps, on dit, voilà, il y aura des moyens de prévention, des moyens de sensibilisation, alors que vraiment, le bégaiement, il n'y a rien.
Et quels sont les clichés que vous voudriez voir disparaître sur le bégaiement, sur les bègues?
Les clichés seraient de dire que ce sont des gens timides, des gens insociables, qui ne sont pas bavards, car moi j'en suis
Vous êtes bavard, hein, vous avez l'air.
Ah, oui, j'en suis vraiment le contre-exemple, et j'en ai plein dans mon cas. Et malheureusement, plus qu'on va donner cette image d'insociable aux bègues, plus qu'ils vont le devenir.
Oui.
C'est aussi discriminatoire, enfin les gens qui peuvent vous insulter, enfin je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais aujourd'hui on porte plainte pour plein de choses, pour problèmes de handicap, pour les personnes LGBT notamment. Vous, ça vous est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec des gens, d'avoir des remarques très très déplacées au point de vouloir aller déposer plainte, parce que c'est interdit de se...
Non. Moi, c'est vrai que après mon passage, j'ai été très très étonné qu'il y ait énormément de bienveillance.
Oui, le passage à la télé.
Après, la malveillance, il y en a toujours. C'est l'humain. Et c'est l'humain qui est comme ça. Et je pense que si on en donne trop d'importance, et bah serait une fois plus de donner raison à celui qui a eu ses propos. Car si on donne de l'importance à ça, il y aura un débat où des gens vont être pour et d'autres contre. Donc le mieux, c'est l'ignorance et dire on en avance et surtout pas insister sur ça.
Oui, il faut avancer, il ne faut pas rester sur les souvenirs difficiles.
Oui, complètement.
Ouais. Merci, vous n'avez plus de questions.
Non.
Merci.
Non, merci à vous, Valentin.
Valentin Reiner.
Merci à vous.
Voilà, on vous souhaite le meilleur.
C'était
pour la suite. On rappelle les dates du spectacle.
À partir du 15 avril au Théâtre des Mathurins.
Des Mathurins, très bien, à Paris.
Et dans puis... le 9e, c'est ça?
Oui.
Dans le 9e, c'est ça, exactement.
Et puis, La
le
vie 9e. Est bègue aux éditions DH Management, un livre qui est sorti il y a quelques semaines. Merci à vous, Valentin.
Merci à vous.
Merci.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.